Deutsche Welle Carrefour Europe.
Il y a des problèmes que seule l'Europe unie peut résoudre, car nous sommes plus forts ensemble grâce au marché unique.
Angela Merkel ne cesse de souligner l'importance de l'Europe pour l'Allemagne et ô combien l'Allemagne a un rôle à jouer.
L'Europe échoue si l'euro échoue. L'Europe gagne si l'euro gagne.
La chancelière a beau répéter la même chanson, rien n'y fait. À 5 semaines des élections européennes, le sujet ne passionne pas les foules. Et selon un sondage réalisé par la 2e chaîne de télévision publique, la ZDF, seuls 22% des Allemands s'intéressent à ce scrutin. Carrefour Europe se penche cette semaine sur la campagne vue d'Allemagne. Et pour comprendre les enjeux, nous serons avec Frank Bassner, directeur de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Merci d'être au rendez-vous. Au micro, Katia Beach. Il y a à peine 7 mois, les Allemands se sont déjà rendus aux urnes pour élire les députés de la Chambre basse du Parlement, le Bundestag. Rebelote, dans 5 semaines, on y retourne, cette fois pour choisir 96 députés européens. Las, peut-être, de retourner voter, les Allemands accordent peu d'attention, du moins pour le moment, aux prochaines élections. Mais au-delà de cette lassitude, ils n'échappent pas non plus à l'euroscepticisme. Relativement épargnés par la crise, beaucoup d'Allemands s'interrogent sur le caractère durable de cette prospérité à bord d'un bateau à la dérive. La popularité grandissante du parti anti-euro Alternative für Deutschland reflète cette euro-défiance. Ces élections européennes seront d'une certaine manière la réponse à la question « Faut-il tenir la barre ou laisser sombrer le navire ?» Monsieur Frank Bassner, vous êtes donc directeur de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Nous sommes à 5 semaines des élections européennes et on a peine à croire que la campagne a réellement démarré en Allemagne.
C'est assez traditionnel. La campagne européenne en Allemagne a toujours commencé relativement tard. On voit les premiers posters, on voit les images. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de clivages visibles.
Il n'y a pas beaucoup d'engouement. On a le sentiment que ces élections passent un peu inaperçues.
Je ne pense pas que ce soit vrai pour les petits partis, parce que les petits partis auront une possibilité d'exister politiquement lors des européennes, parce qu'il n'y a pas ce seuil de 5% ni celui des 3% qu'on avait jusque-là. Donc ça va permettre quand même à quelques petits partis d'émerger et d'avoir des députés.
Donc la France et l'Allemagne sont confrontées au même défi, à savoir une abstention qui risque d'être record et un euroscepticisme grandissant.
Exactement. En France, évidemment, après les élections aux municipales, il s'agira de redresser la barre un peu pour le Parti socialiste avant tout. Donc ce sera un test de popularité. Pour l'Allemagne, il s'agira plutôt d'éviter que des petits groupuscules et petits partis politiques percent trop, parce que jusque-là, on avait donc cette limite des 3%. Ça a été aboli par la Cour constitutionnelle, ce qui fait qu'un tout petit parti d'extrême droite ou autre extrémisme pourrait percer et avoir 1, 2, 3 députés. Ça, c'est un certain risque.
Parmi ces petits partis, on peut citer en Allemagne Alternative für Deutschland. Le parti anti-euro a raté de peu son entrée au Bundestag et au Parlement allemand, mais il pourrait faire donc une percée lors des européennes et tirer profit d'une abstention record. Est-ce que, selon vous, ce serait un désaveu pour la politique européenne menée par Merkel?
C'est vrai que s'il y a une abstention record, ça n'arrangerait personne, parce qu'au fond, les deux grands partis au gouvernement, SPD et CDU, sont d'accord sur le fond de l'aventure européenne. Donc c'est vrai, oui, une abstention record et un euroscepticisme très poussé pourraient être pris aussi comme un désaveu par rapport au gouvernement national.
Mais quelles seront les conséquences de l'arrivée à l'Assemblée parlementaire d'une multitude de petits partis anti-euro?
Eh bien évidemment, nous avons devant nous en Europe des décisions difficiles à prendre. Il faudra continuer quand même à gérer financièrement, économiquement la zone euro. Il y a des conflits à nos frontières de l'Est, tout le monde le sait. Il y a la Méditerranée qui évidemment aussi est un grand sujet commun pour tous les Européens. Et donc c'est vrai qu'il faudra veiller à avoir des majorités claires, ce qui a toujours été le cas jusque-là. Et comme tout le monde le sait, il y aura dans beaucoup de pays, y compris la France, la Hongrie, peut-être aussi l'Allemagne, un vote un peu protestataire anti-Europe dans la mesure où il y a des petits et moins petits partis qui disent non, on ne peut pas continuer comme ça. Donc là, il y a un certain risque et c'est vrai que c'est un enjeu important pour tous les pays, surtout les pays fondateurs de l'Europe.
En 2009, lors des dernières élections européennes, moins d'un Allemand sur deux s'est déplacé aux urnes. Pour tenter cette fois de mobiliser l'électorat, les lobbyistes et associations multiplient discussions et réunions. Notre correspondante Audrey Parmentier a assisté à l'un des débats publics organisés à Berlin. Reportage.
Le BBE, le Réseau National de l'Engagement Citoyen, Euractiv ou encore la CESI, la Confédération Européenne des Syndicats Indépendants, toutes ces organisations tiennent un stand dans la salle qui jouxte celle du débat. Le but, informer les visiteurs de leurs activités, des visiteurs nombreux et jeunes pour la plupart, à l'instar de Sandra, qui remplit une immense affiche posée au sol.
C'est un sondage sur les questions européennes les plus urgentes. La participation aux élections, ce qu'on attend de l'Union européenne et du Parlement, et plus largement de la participation des citoyens européens. Je suis venue ce soir parce que je pense que la politique européenne devient de plus en plus importante, y compris sur le plan national.
Cette politique européenne, beaucoup d'Allemands la rejettent ou la considèrent avec suspicion depuis que la chancelière Angela Merkel a décidé de venir en aide à la Grèce. Beaucoup ont l'impression de donner et de ne rien recevoir en retour. Thomas Franke est directeur d'Euractiv Allemagne, un réseau spécialisé dans les questions européennes.
Tous ceux qui se penchent un tant soit peu sur le sujet savent que ces raisonnements sont faux. Il faut garder à l'esprit le fait que l'on ne se débarrasse pas de ses voisins européens en les faisant sortir de la zone euro. Ils restent des voisins avec lesquels nous sommes étroitement liés. On ne peut construire l'avenir qu'avec eux, et dans le meilleur des cas, au sein de l'Union européenne.
Il n'en reste pas moins que selon les derniers sondages, l'alternative pour l'Allemagne, parti anti-euro, pourrait recueillir entre 6 et 8% des voix le 25 mai. Thomas Franke.
Je crois que les médias surestiment ceux qui critiquent l'Europe. Selon moi, la grande majorité des Allemands sait à quel point l'Europe est importante et ce qu'ils peuvent en tirer. Il suffit de regarder du côté de l'Ukraine pour voir qu'on défend des valeurs pour lesquelles cela vaut la peine de se battre.
Un avis que partage Birgit Zippel. Depuis 2009, elle siège au Parlement européen pour la fraction social-démocrate.
Tous les partis démocratiques voient avec une grande inquiétude la montée des partis anti-euro, car derrière leurs critiques envers l'Europe, on trouve souvent une conception de l'être humain qui est inacceptable. C'est donc très préoccupant et une raison de plus pour les partis démocratiques d'insister sur nos perspectives, de dire que l'on ne peut construire l'avenir de l'Europe que tous ensemble dans le cadre de l'Union européenne, que tous les pays sont beaucoup trop petits pour avoir du succès à l'international, que ce soit en politique, en économie, mais aussi en ce qui concerne la protection sociale.
Le débat, comme toute la campagne des Européens, est placée sous le slogan « Cette fois, c'est différent ». Alors en quoi ces élections sont-elles différentes des précédentes en 2009 ? La réponse de Christophe Leclerc, fondateur du réseau Euractiv.
Je crois qu'il y a trois différences. Premièrement, la crise économique et financière est très profonde. Deuxièmement, cette fois-ci, on va nommer des candidats pour la présidence de la Commission européenne. Et troisièmement, je crois qu'on doit moderniser la façon de faire la politique au niveau européen. Et donc, le nouveau mandat devra être un mandat plus moderne, en phase avec les médias sociaux.
Avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le prochain président de la Commission européenne pourrait être de la même couleur politique que le parti vainqueur des élections. Les électeurs vont donc avoir une influence sur le choix de cette figure clé au sein de l'Union. Chaque famille a désigné un candidat pour succéder à José Manuel Barroso. Et les deux favoris sont Martin Schulz pour les socialistes et Jean-Claude Juncker pour le Parti populaire européen. D'après Lennart, étudiant en sciences politiques venu assister au débat, le choix est difficile.
Je trouve les deux bien. Jean-Claude Juncker s'est déjà distingué par ses actions en faveur du projet européen. Il a montré qu'il le défend et qu'il a les qualifications nécessaires. Martin Schulz n'a pas encore le bagage de Juncker, mais je trouve qu'il fait du très bon travail et qu'il est également très qualifié pour le poste.
À voir si les résultats du scrutin du 25 mai seront suffisamment nets pour départager ces deux candidats.
Toujours
toujours avec nous Monsieur Frank Bassner, directeur de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Monsieur Bassner, l'Allemagne compte 96 eurodéputés, le plus grand nombre de représentants à l'Assemblée, et l'Allemagne a bien l'intention de continuer à peser de tout son poids sur les politiques européennes.
Bien entendu, le Parlement européen a pris de plus en plus de pouvoir, de plus en plus de responsabilités. C'est vrai, l'Allemagne devra toujours composer avec quelques autres grands pays, mais il ne faut pas oublier non plus que maintenant, dans le Parlement européen, nous n'avons pas seulement une logique nationale qui prime, mais plutôt aussi vraiment des familles politiques. Donc il y aura une politique plutôt chrétien-démocrate, une politique plutôt social-démocrate-socialiste. Donc c'est là qu'il faudra voir un peu les élections en Allemagne aussi. Qui sera le premier parti? Ça, c'est un vrai enjeu. Entre M. Scholz et M. Juncker, pour les Allemands, il y a un choix à faire, comme pour tous les autres Européens.
Effectivement, à l'issue de ces élections aura lieu le grand mercato. Les parlementaires choisiront entre autres le président de la commission et qui pourrait être le chef de file des familles politiques. Une manière de mettre un visage sur ces élections pour mobiliser davantage l'électorat. Ça veut dire que Angela Merkel, qui partage le pouvoir avec les socialistes au Bundestag, pourrait également être contrainte de composer avec un socialiste, à savoir Martin Schulz, président de la commission.
Bien sûr, c'est pour ça qu'elle a toujours dit clairement qu'elle ne pensait pas que c'était un automatisme. C'est un avantage sans doute pour rendre plus politiques les élections européennes d'avoir des candidats qui sont à la tête des grandes familles politiques. C'est sans doute un avantage pour les citoyens de dire « ben ouais, celui-là, on l'a déjà vu, on sait qui c'est, il a une fonction, il avait une fonction, donc on va plutôt voter pour un parti et pour ce candidat-là ». Ça, c'est sans doute un grand avantage. Et donc, oui, pour Mme Merkel aussi, il s'agira de faire en sorte que M. Juncker soit le candidat le plus crédible pour être président de la Commission.
Merci, M. Frank Bassner. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Si vous souhaitez réécouter cette émission Carrefour Europe consacrée aux élections européennes vues d'Allemagne, rendez-vous sur notre site dw.de/français dans la rubrique Carrefour Europe. Merci et à bientôt pour un nouveau décryptage de l'actualité européenne.